parlo cana.
Je ressens encore comme une injustice et une totale incohérence par rapport à la politique qu'on mène. Les petites mains du trafic, c'est elles qui doivent en premier bénéficier de la régulation du marché. Tous les gens qui se sentent de près ou de loin concernés par cette politique liée au cannabis, il faut tous qu'on se retrouve dans la rue.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Ce que vous allez apprendre sur le cannabis légal va vous étonner. Que vous soyez curieux, utilisateur ou professionnel, nous allons démystifier une plante millénaire aux mille facettes. Ici, on parle de CBD, mais aussi THC, loi, production, laboratoire, produits, variétés et bien plus encore. Je m'appelle Mathias, je suis entrepreneur multirécidiviste dans le milieu du CBD et je vais à la rencontre des acteurs engagés qui feront le marché de demain. Je les interview sans filtre pour comprendre leurs techniques pour innover dans ce marché particulièrement contrôlé et restrictif. Alors, nourrissons-nous de l'énergie extraordinaire des intervenants. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de discuter avec Farid. Alors, je crois que je vais écorcher ton nom de famille. Je suis désolé, mais corrige-moi. C'est Guéwesh.
Ben, ça va. C'est bien. Tout va bien.
Je l'ai bien dit?
Tout va bien.
Waouh, ben super. J'ai assuré. Alors, écoute, tu fais partie de Cannabis Sans Frontières. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Cannabis Sans Frontières. Tu es un militant pour la légalisation du cannabis depuis des années. Tu es un ancien. De ce combat-là, on va en parler. Tu es à l'origine de la marche mondiale pour la légalisation du cannabis.
Ouais.
Notamment, tu es le créateur fondateur de la Cana Parade, donc notamment qui sera le 4 juin à Paris.
Ouais,
donc une manifestation à Paris, tu vas nous en parler aussi. Et l'appel du 18 juin, donc c'est un appel à la désobéissance. Donc ça, tu vas nous expliquer aussi ce combat et pourquoi tu veux faire ça. Bien sûr, on parlera de la situation internationale, on parlera de la situation en Europe, la situation en France. Donc, on va aborder plein de sujets hyper intéressants avec toi dedans. Et moi, je veux préciser avant qu'on attaque cette interview que tu as une magnifique cravate, ok, noir et vert fluo avec des feuilles de cannabis. Et tu as un espèce de pins qui est cannabis, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Donc,
oui.
C'est peace and love avec des feuilles de cannabis. Donc, tu poses tout de suite le style. On l'a compris, ta direction. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, moi, ce qui est important, c'est que les auditeurs se mettent une image, comprennent ton parcours et comprennent pourquoi tu as ces réflexions aujourd'hui sur le marché et sur justement ce sujet-là. Et donc, j'aimerais savoir un petit peu qui tu es. Alors, hormis le côté militant. Vraiment, qui tu es toi personnellement? Tu as fait quoi comme études? Tu viens d'où? Et qu'est-ce qui t'a amené petit à petit dans ce monde-là?
Je te remercie, Mathias, pour l'invitation et bravo pour Parlons Cana.
Merci.
C'est très bien parce qu'il faut diffuser l'information. En France, on est dans une situation très particulière où justement l'accès à l'information est assez problématique. Et c'est d'ailleurs une de ces raisons qui m'ont motivé à m'engager. Alors, d'où je viens, qui je suis, j'ai 50 ans, j'ai deux enfants, je vis en banlieue parisienne, mais je suis originaire de la région lyonnaise. Étant plus jeune, j'ai découvert le cannabis aux alentours de 15 ans, et dans mon village, il y a une foire bressane à l'ancienne. Et à l'époque, j'ai rencontré des anciens qui avaient des pieds de chanvre, avec tout un tas d'outils pour valoriser les métiers du chanvre. Et en gros, à l'époque, moi, je commençais à découvrir le cannabis, un peu comme tout le monde, c'est-à-dire dans la rue et en essayant de se cacher. Et là, j'ai rencontré des vieux qui m'ont parlé du chanvre, du cannabis, de cette plante qui avait de multiples usages. Et là, j'ai découvert qu'il y avait plein de potentiel et surtout qu'il y avait un lien très particulier entre la France et cette plante.
C'est vrai.
Et à l'époque, moi, je pensais, comme on le pense encore une fois, malheureusement, avec les clichés dans l'opinion publique, je pensais que c'était quelque chose qui venait de l'étranger, on ne connaissait pas du tout cette substance.
C'est important ce que tu dis, parce que effectivement, la France est un gros producteur de chanvre, un des plus gros.
Ça a été longtemps la plus grande surface cultivée en Europe.
Effectivement, et derrière, on a une vraie histoire qui est liée au chanvre, notamment la cannebière.
Ça, c'est des petits points, mais on pourrait aller très loin dans l'histoire de France et remonter par rapport à l'utilisation du chanvre comme une ressource.
Qui était utilisée pour faire du textile, pour faire des cordes, pour faire une multitude de choses.
Exactement, pour se soigner aussi, pour s'alimenter, pour se... pas se chauffer, mais en tant que tel, quand on a commencé à avoir des lampes à pétrole, ça fonctionnait avec de l'huile de chanvre. Donc
c'est bien.
On n'avait pas eu lampe à pétrole avant, c'était lampe à huile.
Ouais.
Bon voilà. Et alors
j'ai
si
compris.
Je reviens plus loin. Moi, la première fois que je me suis fait interpeller par un flic.
Alors attends, on va juste revenir sur l'histoire.
C'est ça qui m'a motivé à rentrer.
Alors on va y venir. Là aujourd'hui, je reprends la connexion. Donc en gros, toi tu rencontres des anciens et finalement les anciens te disent mais attends, la France c'est étroitement lié aux gens. Voilà. Donc c'était dans nos vies, ça existait, etc. Et donc ça casse un peu le cliché que tu avais de simplement la partie cannabis caché, etc., qu'on a maintenant.
Récréative, et donc, dite récréative.
Effectivement. Donc là, voilà, tu es dans cette optique-là. Tu avais quel âge à peu près là quand tu as 16
ans? J'ai 16-17 ans.
16-17 ans, ok. Et alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
Déjà, d'une part, je découvre que là où j'habite, dans ma région, on a cultivé du cannabis, du chanvre depuis longtemps et que malheureusement, le préfet a pris un arrêté pour interdire le rouissage du chanvre. Et donc là, à cette époque-là, avec ces vieux, je me rends compte que pourtant ils ont une pratique qui est assez, on va dire, traditionnelle et comment dire, c'est tout petit quoi, c'est minime, mais juste pour le peu qu'ils ont de pieds de chanvre, l'État leur fait des ennuis. Et après, comme je te le disais, dans la foulée, aux alentours de 18 ans, bon, j'ai fait 2-3 gardes à vue et sur les coups de, j'étais en train de passer mon bac. Et là, je me retrouve devant le tribunal et je tiens un discours pro-chanvre, pro-cannabis, pro-légalisation, et en disant au juge, mais c'est pas vous qui vous méprenez, c'est pas le flic qui m'a arrêté qui se méprend, c'est le législateur qui devrait changer la loi.
Et là, wow. Et donc là, t'avais quel âge là?
Ah, j'avais 19 ans.
Donc 19 ans, t'avais déjà, tu dégonflais pas, quoi.
Et je dois avouer qu'il y a une chose qui m'a bien aidé, c'est le livre de Jean-Pierre Galland, Fumée clandestine. Parce que quand il a déboulé ce livre, c'est devenu ma Bible. Et quelque part, avec ce livre, j'ai découvert des tas de personnages comme Jack Herer et l'Empereur est nu. Et je remercie Jean-Pierre Galland d'avoir aussi été l'initiateur, le fondateur du CIRC, Collectif d'Information et de Recherche Cannabique. Et donc, dans cette période, moi, je le connais pas directement. J'ai juste lu une interview dans une revue qui s'appelle Actuelle. Et je l'ai vu à la télé sur Canal+, dans Nulle part ailleurs. Et là, si tu veux, quelque part, avec ce livre, je commence à me constituer mon background sur la connaissance en alliant le côté du savoir traditionnel. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup à creuser parce que là, tu vois, je ne sais pas si tu l'as vu sur le plateau, mais il y a un gars qui se promène avec son livre, Alexis Chanbeau. Et il a fait tout un livre autour des liens entre la culture chanvrière et la culture française. Bon, bref, devant le tribunal, le procureur de la République qui défend les intérêts de la société, de l'État, m'accuse, moi, de vouloir rajouter une tare à la France en plus de l'alcool et du tabac.
D'accord.
M'accuse, moi, de vouloir créer de la zizanie dans la société française avec un discours pro-cannabis. Et à l'époque, me dit, regardez ce qui se passe en Hollande ou en Espagne. Là-bas, ils s'en mordent les doigts et ils veulent revenir en arrière. Un discours totalement déconnecté des réalités, puisque on l'a vu aujourd'hui, 30 ans après la légalisation des coffee shops et de la loi de tolérance en Hollande, on n'a pas. Si on compare avec la jeunesse française, on n'a pas les mêmes problèmes en Hollande qu'en France par rapport à l'usage du cannabis. Là-bas, il est ringardisé. En France, c'est limite un faire-valoir quand on a 15-16 ans pour dire qu'on existe et c'est bien dommage. Et puis surtout, il y a tout un univers autour de la culture de l'illicite qui fait que ça entretient un état d'esprit qui, de mon point de vue, entraîne dans une société de plus en plus délétère, problématique, parce qu'on ne veut pas regarder les problèmes tels qu'ils sont et on se fourvoie dans des impasses comme il faut interdire parce que ça protège la jeunesse, soi-disant, tu vois.
D'accord, bah justement, ça, on va en venir par la suite, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je pense que, ouais, je te sens chaud direct. Ok, donc là, tu as 19 ans, tu te fais arrêter justement, je pense, pour détention de stupéfiants.
Voilà.
Ok, tu passes devant le juge, tu te dégonfles pas, et au contraire, tu commences à ton combat maintenant. Mais pourquoi? Pourquoi, en fait, à ce moment-là, tu n'as pas fait comme tout le monde, dire « oui, madame, je ne le referai plus », etc. Pourquoi tu as commencé à tout de suite vouloir être en conflit, à combattre? Pourquoi?
C'est une très bonne question, Mathias. Pourquoi? Parce que j'ai sans doute toujours eu cet esprit un peu rebelle et à ne pas accepter, on va dire, ce qui est dit comme la norme, alors qu'elle paraît complètement illogique, incompréhensible, qu'elle n'est pas respectée. Enfin bon… Voilà, moi on m'a dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi elle est pas faite pour être marquée dans la pierre.
Bien sûr, elle évolue.
Elle évolue.
D'accord.
Alors après on peut garder des grands principes comme le principe des Déclarations universelles des droits de l'homme, mais si on regarde par rapport à ces principes, la loi française, de mon point de vue, et c'est ça qui m'a engagé, elle viole ma liberté individuelle.
D'accord, j'ai compris. Donc en fait tu étais dans le sens.
Et quand je me retrouve devant le juge à me faire insulter de soi-disant vouloir ajouter une tare à la France, je trouve que c'était beaucoup prétendre par rapport à ma petitesse de l'époque, à 19 ans, de vouloir accuser un petit jeune comme ça. Et en fait, si on regarde bien, la loi, elle est là surtout pour assurer un contrôle social. Et c'est ça qui m'a mobilisé davantage, parce que étant originaire de, métis, franco-algérien, c'est vrai que pour mes potes, c'était plus simple pour aller chercher du shit dans la cité, mais pour passer au travers de le centre-ville sans se faire contrôler, c'était plus simple pour eux, quoi, tu vois. Et donc, moi, c'est vrai que je dois répondre à ta question. Ce qui m'a le plus engagé vers ça, je dois te le dire, je suis originaire d'une région où c'est le pinard et la picole, d'accord, le Beaujolais, etc. On fait toujours des grandes fêtes avec du mar, etc. Il y a les conscrits, c'est un passage obligé. Si t'es pas bourré dans le week-end, c'est pas normal. Et j'ai fait, on va dire, quelques mauvaises pratiques, mes usages de l'alcool. Et en fait, avec le cannabis, je me suis senti mieux, plus à l'aise, et avec l'ivresse cannabis, mieux en capacité de gérer mon état.
D'accord, je comprends.
Et quelque part, ça m'a amené à diminuer ma consommation d'alcool. Parce qu'en fait, ça se marie assez mal en général, et surtout ça m'a fait diminuer ma consommation de tabac. Alors certes, en France, malheureusement, on mélange souvent du hashish, moins de la résine, avec du tabac, et c'est un mésusage du cannabis. Et je regrette d'avoir eu cette pratique au départ, mais c'est ça aujourd'hui qui me motive encore à combattre, c'est le fait que il y a très peu d'informations sur la nature des produits qu'on consomme. Là, aujourd'hui, avec l'émergence du marché CBD, on commence à voir des produits qui sont un minimum contrôlés, et c'est déjà une bonne chose. J'aimerais bien que les consommateurs puissent mieux connaître les produits, la différence entre de la fleur, de la résine, des extraits et tout ce qu'on peut faire d'autre pour…
Mais là tu as raison. Ce qui est important, c'est que… Alors déjà, il y a deux choses. Là, je viens de repérer que toi, en fait, ça manquait de sens pour toi. C'est-à-dire que tu t'as trouvé ça plutôt injuste. Et donc, ça a créé en toi, en disant, voilà, j'ai pas de sens à ça, donc je vais le combattre. Ce qui est logique, parce que on va parler de chiffres, mais il y a des chiffres qui sont complètement aberrants. La France, qui est un des plus gros consommateurs de THC, en Europe, alors qu'on fait une répression qui est aberrante, on met des personnes en prison, des fois sur des choses qui où on perd du temps, on crée des réseaux parallèles, etc. On va venir sur tout ça. Donc effectivement, il y a une aberration aujourd'hui marché qui est présente là-dessus. Et après, il y a une deuxième chose, c'est effectivement l'information. Donc tu l'as précisé. Comme c'est interdit, on n'en parle pas. Donc on n'informe pas. Et comme on n'informe pas, eh ben derrière, on peut pas choisir, on peut pas trouver un chemin compréhensible. Et souvent, on part sur des trucs qui sont pas forcément bien et positifs. D'où l'importance d'en parler. Et donc, le fait potentiellement de légaliser, permettrait de pouvoir mettre les risques, les études, tout en public et faire un choix éveillé.
C'est ça. Bah, tu résumes bien, en fait, la raison pour laquelle je reste motivé, c'est que je ressens encore comme une injustice et une totale incohérence par rapport à la politique qu'on mène. Et donc, tant qu'on n'aura pas un minimum retrouvé de cohérence par rapport aux politiques qu'on mène, je pense que je continuerai à mobiliser. Mais
t'as raison. C'est quoi, je vais te poser.
Ça, je voudrais juste te dire que, comme là, tu fais de l'information. En France, on a aussi cette particularité d'avoir une loi qui est une des plus dures en Europe et dans le monde. Tout à l'heure, je te parlais des droits de l'homme et je te parlais de ma liberté individuelle. Mais il y a une liberté qui est souvent mise en avant, la liberté d'expression, là, je suis Charlie. Mais sur la question du cannabis et des usages du chanvre, qu'ils soient récréatifs ou autres, c'est vrai qu'il y a une forme d'omerta. Alors, elle commence à être cassée parce que le marché du chanvre et l'essor du CBD fait que d'un seul coup, on est en train de découvrir les multiples usages du chanvre. Mais cette omerta, elle est entretenue par la loi qui interdit, et c'est peut-être pour ça que tu prendras peut-être des réserves quand je dis, moi, j'ai consommé ou j'ai été interpellé avec de la résine, avec du THC, etc. Parce que, en l'occurrence, en France, on interdit la présentation de l'usage du cannabis sous un jour favorable. Et tu vois, précisément, l'usage du cannabis sous un jour favorable. C'est-à-dire que, au nom de la loi, on s'est interdit de présenter le cannabis sous un jour véridique. Et c'est ça qui me motive depuis 30 ans, c'est de présenter le cannabis et, d'une manière générale, les drogues sous un jour véridique pour qu'on sorte de l'hypocrisie, pour qu'on apporte, on va dire, les informations justes pour qu'en effet les usagers, les consommateurs, les citoyens aient un avis éveillé sur la question et non pas complètement embrumé par des clichés, des lieux communs qui en plus n'ont aucune rigueur scientifique, quoi. Juste par exemple, on nous a bassiné avec la théorie de l'escalade, tu commences par fumer un joint et tu finis avec une seringue dans le bras. Si c'était le cas, il y a, tu le disais, tu le rappelais, à peu près 17 millions de Français qui ont fait un usage du cannabis au cours de leur vie. C'est-à-dire qu'à peu près un tiers de la population française reconnaît avoir enfreint la loi. Si c'est un tiers avait fini avec une seringue dans le bras, on serait dans une autre situation au niveau sociétal, quoi.
T'as raison.
Et c'est pareil pour les autres drogues. Tu vois, on nous parle de la cocaïne. C'est vrai que c'est un marché qui évolue et qui explose et qui peut poser d'énormes soucis, mais tant qu'on continuera à vouloir associer des idées fausses et à la fois consolider des choses qui sont réelles, mais en les ignorant et en faisant les hypocrites.
Alors, moi, je vais faire un petit peu l'avocat du diable, ok ?
Oui, j'en prie.
Okay, parce que le but du jeu, c'est de justement créer un débat et que chacun puisse se faire une idée et construire son idée. Voilà, sur le partage qu'on a tous. Moi, je te parle, ce qui m'embête, moi, par exemple, c'est au niveau des jeunes. C'est quoi ta position, toi, là-dedans, au niveau des jeunes qui fument très tôt, de plus en plus tôt, et je sais pas si tu me confirmes ou pas, mais on voit du décrochage scolaire, on voit la difficulté à se concentrer, on voit la difficulté à rester, à faire une tâche longue, voilà, voilà, il y a plein de choses qui rentrent, difficulté à communiquer, etc., parce qu'ils s'enferment un peu dans une bulle. Donc il y a plein de choses qui sont pas tout roses là-dedans. Et donc je te mets face à ça. Qu'est-ce que tu me dis sur ça ?
Alors déjà, je reviens sur le truc. Il y a beaucoup de mésusages du cannabis en France, et le principal, c'est en effet sans doute de le découvrir très jeune dans la rue avec un groupe de copains. Voilà, et de penser que on va pouvoir en tirer qu'une bonne expérience. Et en effet, il peut y avoir pour certaines personnes, certains individus, on va dire le début d'une mauvaise expérience avec un mésusage qui va s'amplifier. Tu parles de la déscolarisation, tu parles éventuellement des difficultés de concentration et de déficiences cognitives qui peuvent surgir. En effet, que ça soit avec l'alcool, que ce soit avec le cannabis, quand on commence très jeune, on n'a pas le cerveau qui est très mature et ça peut perturber certaines fonctions cognitives et interconnexions. Je ne veux pas le nier parce que c'est fait pour. C'est des substances qui agissent sur le cerveau. D'accord? Mais après ça, je ne veux pas non plus diaboliser le fait que il y a des jeunes qui sont déjà, on va dire, en phase d'adulte à 15 ans et d'autres qui, à 25 ans, sont encore des minots dans leur tête. Donc, là-dessus, il ne faut pas non plus stigmatiser les jeunes. Le truc, c'est que encore une fois, moi, je me bats pour que les adultes responsables, majeurs, aient un accès, on va dire, légal, garanti, sûr, au cannabis.
D'accord.
Tant qu'on reste dans le cannabis dans la rue, le cannabis en vente libre et sauvage, en effet, t'as des mômes qui, à 15 ans, vont se dire, mais plutôt que rester à l'école, je vais aller faire de la caillasse, je vais faire le chou, je vais monter en grade.
Justement.
Et dans 5 ans, ça se trouve, je serai là en train de jouer le caïd, etc.
D'accord.
Alors, la logique Tony Montana, c'est vraiment la logique qui me motive aussi depuis 30 ans à me mobiliser, parce qu'aujourd'hui, comme tu me vois, j'ai un fils et une fille de 15 ans. Ils viennent de sortir du collège, ils rentrent au lycée. Je me suis jamais caché devant eux à consommer. Pour certains, ils penseront que je suis peut-être un mauvais père. Mais je leur ai jamais rien caché par rapport à mon combat. Ils savent tout. On a planté des graines de chanvre et cannabis. On en a fait pousser. Ils avaient 2 ans. Tu vois, bon. Dans l'immédiat, j'ai l'impression qu'ils suivent une très bonne scolarité. Ils sont vus un peu comme des modèles par les profs, tels que j'entends les retours quand je vais au conseil de classe, moi, en réunion par prof. Et en effet, par rapport à d'autres enfants, moi, leurs amis, j'ai l'impression que nos enfants sont un peu privilégiés, coucounés.
Mais est-ce que tu les verrais, toi, fumer, là? Est-ce que tu les verrais fumer du cannabis? Est-ce que si voilà tes enfants là, tu les vois commencer à fumer alors qu'ils sont jeunes, qu'ils vont à l'école?
Aujourd'hui, c'est ça qui me fait le peur, c'est que je préférais que encore une fois à l'ancienne, je préférais qu'il y ait une éducation par les pères et un adulte pour que au moins on évite de rentrer dans le mésusage de l'apprentissage avec des jeunes. Alors après, je vais pas inciter mon fils à venir me voir en me disant papa, je veux goûter la beuh, d'accord? Mais je préférerais qu'ils viennent me voir plutôt que... Là, aujourd'hui, il y a des néocannabinoïdes qui sont sprayés sur des têtes de chanvre et ça peut avoir une grave incidence au niveau cardiaque, au niveau cérébral, au niveau... tu vois, donc...
Alors, j'ai bien compris. Moi, si je résume un petit peu ce que tu dis, et j'aime bien, c'est-à-dire que les adultes consentants, voilà, c'est une chose. À partir du moment où on a des enfants, c'est une autre. Le cerveau n'est pas encore développé, etc. Et effectivement, il faut éviter au maximum et quasiment ne pas l'utiliser.
Et sortir le cannabis de la rue.
J'allais venir. Et donc ça, super, il faut être assez strict là-dedans. Et en plus, le fait de pouvoir, donc toi, c'est ta position, de pouvoir communiquer dessus, c'est permis d'avoir des informations. Et justement, de pouvoir informer ton enfant, parce que tu as une éducation dessus. C'est pas juste, non, mais en fait, je cherche pas à comprendre, c'est mal.
Exactement.
Donc, en fait, c'est beaucoup plus que ça.
Exactement.
Et donc, tu transmets une info, tu expliques le pourquoi, du comment, etc.
Exactement.
Et pourquoi, effectivement, il ne doit pas l'utiliser maintenant. Il fera ce qu'il veut plus tard, quand il sera adulte. Mais aujourd'hui, pourquoi l'utiliser maintenant? Et ça, c'est un message fort et c'est important de le préciser.
C'est la même chose avec le tabac et c'est la même chose avec
l'alcool, évidemment.
Qui sont des drogues légales et pour lesquelles il peut y avoir quand même des conséquences au niveau physiologique.
Évidemment. Et donc ça, c'est important de le préciser. Après, la deuxième partie, effectivement, Là, je te positionne sur la partie marché illégal. Donc, sur un produit qui n'est pas tracé, pas contrôlé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On parle souvent de pneus, de machins, des trucs.
Oui, le Tcherno, enfin, moi, je suis un enfant de la génération. Moi. La génération Tcherno, quoi.
Voilà, donc on parle de, aussi de ces réseaux donc, qui ont une manne financière qui est monstrueuse, qui fait, comme tu l'as précisé tout à l'heure, tu commençais à en parler, donc j'ai vraiment envie qu'on mette les deux pieds dedans et qu'on discute là-dedans de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux gagner, je sais pas combien par jour en faisant le chouf, quoi, comme tu dis, et donc je vais pas travailler, je suis déscolarisé. Voilà, il y a tout un écosystème là qui se crée et qui brasse de l'argent. Parce que effectivement, il y a cette partie interdiction et en fait, on a donné le marché à une partie illégale des personnes qui sont en France. Donc aujourd'hui, toi, quelle est ta position sur cette partie-là ?
Justement, une des raisons pour lesquelles je me bats pour la légalisation, c'est de faire en sorte que la régulation du marché du cannabis dit récréatif, mais moi j'appelle ça pour usage adulte, d'accord ? Fasse en sorte de sortir le cannabis de la rue et d'arrêter cette idée fausse qu'on va devenir un Tony Montana et que du jour au lendemain, on va faire la loi. Ça, je pense qu'il faut arriver à sortir des jeunes de cette logique-là. Quand je dis les jeunes, ça peut être aussi des moins jeunes. Hein. Quand on regarde des filières qui sont démantelées, tu as des jeunes, des gens qui sont quand même adultes et âgés même. Mais concrètement, le trafic, c'est une grande pyramide. D'accord. On va dire qu'il y a à peu près 1 000 000 d'acteurs qui contrôlent le business. Après 10 000 personnes qui sont entre les deux, c'est-à-dire des semi-grossistes et qui contrôlent en partie le business à un niveau territorial. Et ensuite, tu as 100 000 petites mains, 100, 150 000, ça dépend comment on voit les choses. Si on ajoute les choufs ou seulement ceux qui tiennent le mur avec la pochette. Mais les petites mains du trafic, c'est elles qui doivent en premier bénéficier de la régulation du marché. Alors après, je suis pas contre le fait qu'il y ait des grands acteurs, je dis n'importe quoi, que Marlboro veuille investir là-dedans. Mais si on doit faire une régulation du marché, il faut qu'elle soit, qu'elle entraîne une forme de plus-value économique pour ces quartiers qui, dans les médias, on dit qu'ils sont zone de non-droit, que, soi-disant, la pègre et l'économie souterraine les dirigent. Et c'est vrai que les bailleurs sociaux l'ont observé, quand il y a eu des opérations coup de poing sur certains quartiers où il y a des fours, comme on les appelle, là, des grosses zones de vente, eh bien, le bailleur social se retrouve avec des impayés de loyer, avec... Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas nier le fait que depuis 52 ans que la loi est en place, ça fait au moins 4 générations de jeunes de 20 ans qui sont passés au travers. Et c'est vrai qu'on a entretenu ce mythe et la situation économique ne s'est pas forcément améliorée dans ces quartiers. Le taux de chômage n'a pas diminué. Donc après, on peut parler du désœuvrement, du fait qu'il y a des services publics qui ont disparu, etc. Mais en effet, le trafic est venu là se substituer à toutes ces impéries économiques et politiques. Et c'est là où la légalisation doit jouer un rôle important parce que de mon point de vue, si on arrive à réguler en intégrant toutes ces petites mains, tu vois, il y a des tas de métiers qui vont d'un seul coup exploser. Hein, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, juste le métier de souffleur de verre pour fabriquer des dabs et des pipes à verre, ça peut peut-être motiver 2-3 jeunes dans des cités qui trouveront un intérêt à découvrir ça. Le métier de vendeur, le métier de conseiller, le métier de courtier en affaires. Enfin bon, dans le monde du cannabis, mais comme dans tout le reste, ça pourrait exister.
On le voit déjà avec le CBD. Hein. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'ai interviewées qui sortent du THC et qui sont allées dans la vente légale de cannabis. Alors qu'ils étaient dans la vente illégale avant, et tu as des très grosses réussites aujourd'hui de magasins qui se sont ouverts, voilà, et qui sortent là-dedans, qui sortent de là. Et effectivement, donc ils se sont réorganisés d'une autre façon. Et moi, je le dis souvent, tu vois beaucoup de personnes sont en prison en fait pour de la drogue. Quasiment, je sais plus les statistiques, mais c'est
infection liée aux stupéfiants.
Voilà, c'est énormissime. Et quand tu rencontres ces jeunes-là. En fait, ils sont ultra structurés, ils sont organisés, c'est des chefs d'entreprise. Sauf que c'est des chefs d'entreprise qui sont passés du côté obscur de l'entrepreneuriat.
Et qui sont totalement autodidactes, en fait. Hein. Ils n'ont pas un diplôme reconnu de dealer.
Exactement. Et ces personnes-là pourraient être très, très fortes, très bonnes aujourd'hui. Exactement. Dans un marché qui est encadré, qui est légalisé, sur lequel on pourrait effectivement suivre la qualité des produits, le suivi, l'information, gérer justement pour pas que ça soit vendu à des mineurs, bien évidemment avec pièces d'identité, etc. Donc toi, comment tu vois la légalisation? Alors imagine demain, je te donne tout pouvoir. Okay.
Bah, d'ailleurs, j'aurais pu te le dire, mais moi, dans l'immédiat, auparavant, j'étais candidat pour être député, mais là, actuellement, je suis candidat pour être dans, j'espère, le futur gouvernement Mélenchon comme secrétaire d'État à la lutte contre les conduites addictives et pour la régulation du marché du cannabis. D'accord.
Énorme.
Donc voilà, là, je fais mon autopub, mais comment je verrai les choses? C'est très simple.
Donc là, attends, ça veut dire concrètement, je reviens sur ce que tu me dis, ça veut dire concrètement, tu pourrais rentrer dans le gouvernement de Mélenchon.
Ah, mais s'il veut, ouais.
Et être acteur là-dedans et changer les choses.
J'espère bien, ouais. J'espère que tout le monde va se mobiliser le 12 juin pour aller voter. Et s'il y a une majorité de gauche dans le futur gouvernement Mélenchon, je ferai tout pour y apparaître. Après, c'est quand même le président de la République qui décide la composition du
bien
gouvernement
sûr.
Au final, même si c'est sur proposition du Premier ministre.
Et un Mélenchon qui est un des rares à avoir répondu à Normal France,
oui.
Et notamment qui était favorable justement à l'encadrement et à la légalisation.
Mais là, quand on voit le dernier programme de la NUP, il y a clairement écrit légalisation encadrée sous un monopole d'État de la production de cannabis. Ça, j'espère quand même le faire légèrement évoluer, d'accord?
J'imagine.
Parce que si tu me poses la question demain, j'ai les pleins pouvoirs pour pouvoir
qu'est-ce
faire.
Qu'est-ce que tu fais?
Au Conseil des ministres, je leur dirais, écoutez, si on fait un monopole d'État, on va droit dans le mur, ça sert à rien.
C'est clair.
D'accord? L'État, il n'est pas spécialement très bon pour savoir bien comment on produit du bon cannabis et comment on vend bien du cannabis et comment on le consomme bien.
Alors,
par contre, l'État, il doit encadrer un minimum les acteurs et faire en sorte qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi. Donc, il faut qu'au niveau de la loi, on puisse à la fois, comme je te le disais tout à l'heure, favoriser différents acteurs. Donc là-dessus, il faut être assez sérieux. Tu vois, par exemple, moi, je serais pas pour limiter les surfaces de culture pour qu'on puisse les multiplier. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'acteurs dans la production et dans la filière de production et que ça soit plutôt des petites unités que de voir des grands entrepôts comme ça qui sont transformés en zone de production.
Circuit court, agriculteurs voilà. Français, d'accord.
Si possible, voilà, un truc qui respecte au maximum la nature, qui invite un maximum de gens à entrer dans cette économie qui, de mon point de vue, est vertueuse parce qu'on peut valoriser cette plante de cannabis à tous les niveaux, à plein de niveaux, et pas uniquement que pour faire de la fleur et de l'extraction et de la résine. Et d'ailleurs, moi, je parle plus de fleurs, je parle de fruits. C'est en fait la sommité fleurie, ça, c'est ce qui est écrit dans le texte, mais en fait, le fruit, il faut qu'il mûrisse, et c'est ce qui nous intéresse.
D'accord. Alors, écoute, tu as plein de modèles aujourd'hui qui ont existé, différents modèles.
Ouais.
On a le modèle, justement, par exemple, en Espagne,
ouais.
Où on parle des cannabis clubs. Social Club, ouais, effectivement. Ouais. Tu as le modèle au Canada. Tu as le modèle aux États-Unis. T'as plein de modèles qui sont sortis un peu partout. Toi, tu choisirais concrètement, dis, sois très concret. Quel serait ton modèle aujourd'hui? Quel modèle tu verrais aujourd'hui si demain on doit légaliser? Et donc, je te dis une chose. Légaliser, je pense, en écoutant tous les acteurs, qu'il faut à un moment donné, se mettre sur la, il faut être face aux réalités. Voilà. Aujourd'hui, il y a trop de consommateurs, c'est pas encadré, on perd des taxes qui sont pas données au gouvernement, ça crée de la délinquance, etc. Bon, tout ça, on va pas y revenir. Mais bref, donc maintenant, comment structurer ça?
J'essaie d'être plus concret, mais donc je dirais au gouvernement, donc un, il faut modifier, réformer la loi du 31 décembre 70. Donc ça passe par la dépénalisation de l'usage des drogues, des stupéfiants. Il faut qu'on sorte de cette logique de la coercition et de la chaîne pénale parce que ça reste un problème de santé publique et les flics ne sont pas des toubibs. Par contre, ça serait bien qu'on ait des toubibs qui soient un peu mieux informés là-dessus, un peu mieux formés. Donc là-dessus, la légalisation, moi j'ai participé à ceux qui ont inventé le concept du cannabis social club, d'accord? Avec Encode en 2004, on a réfléchi à ce modèle alternatif. Faut savoir que ce modèle, on l'a défini, on l'a réfléchi par rapport aux conventions internationales et aux lois, en sachant qu'il faudrait au minimum que la loi elle dépénalise l'usage. Donc c'est pour ça qu'en Espagne ils se sont beaucoup développés, un peu moins en Belgique mais ils existent et ailleurs dans le monde. Et le seul pays au monde où les cannabis social clubs sont vraiment inscrits dans la loi, c'est l'Uruguay. Alors j'aurais plutôt tendance à dire le modèle uruguayen, mais non, parce que eux ils ont voulu un monopole d'État à côté. Et là-dessus moi je suis pas tellement pour. Je pense qu'il peut y avoir tout un tas d'acteurs privés, les cannabis social clubs sous la forme d'associations à but non lucratif, mais il peut y avoir aussi des cannabistros qui seront des échoppes où on trouvera du cannabis de qualité certifié selon les normes qu'on va nous dans le avec les acteurs du marché pouvoir définir, avec bien sûr l'État qui sera là pour mettre son point de vue. Mais concrètement, moi je suis pas pour interdire, par exemple, à un moment je l'ai été, mais je suis pas aujourd'hui pour interdire le fait que dans les bureaux de tabac on retrouve du cannabis s'il est vendu au plus de 18 ans. Si je serais plutôt pour dire que ça devrait être un cannabis normalisé. Ça c'est pour, on va dire, ceux qui veulent absolument un monopole d'État, ça pourrait être l'entreprise d'État qui fait ce cannabis normalisé à 6% maximum, tac, vu qu'ils veulent limiter le taux de THC, etc. Mais il faut qu'il y ait tout un tas d'autres acteurs. Et là-dessus, je pense qu'il faut surtout se regarder au niveau de la production, parce que c'est ce qui va donner la nature des produits par la suite. Donc là-dessus, il faut être quand même un peu plus regardant. Et je te dis, pour moi, il faut multiplier le nombre d'acteurs, parce que si on donne simplement le pouvoir à des grosses multinationales, ça avancera pas. Et après,
je peux résumer ce que t'as dit.
Il faut d'autres acteurs, des acteurs privés, que éventuellement ils auraient une licence pour pouvoir distribuer et vendre du cannabis. Voilà. Et donc ça pourrait être des cannashops, des cannabistros, okay.
Alors j'essaie de résumer ce que tu dis. Donc en gros, si tu dis que l'État prend un monopole, on aurait peut-être un produit qui trop standardisé, et en gros peut-être que finalement le public va rester sur les achats en dehors du circuit, parce qu'en fait il va pas correspondre à ce qu'il cherche aujourd'hui. Exactement. Parce qu'il y a quand même différentes variétés, différentes sensations, différentes choses. Voilà.
Il faut répondre à la demande, et la demande des consommateurs aujourd'hui elle est vachement plus loin que ce qu'on peut entendre dans les médias.
Ok. Et donc derrière, tu aimerais toi pas que ça soit grand public en mode dans les tabacs, mais en mode cannabis club, qui permet en fait d'avoir un lieu spécifique de consommation encadré, suivi. On sait qui consomme quoi, avec des lois précises sur je conduis, je conduis pas, etc. Par rapport à ça, et surtout avoir une belle traçabilité du produit et un choix potentiel qui est lié à ça. Il faut rappeler que le cannabis club, en gros, c'est le gouvernement qui donne la possibilité à chacun de pouvoir avoir un nombre de pieds. Et on peut en fait donner ça à une association.
Ça c'était le modèle belge.
Ah d'accord. Donc d'accord. Là tu le vois dans quel modèle toi alors?
Moi en fait vraiment sous le modèle associatif à but non lucratif.
C'est
on
ça.
On est à trois, on crée une association, un cannabis social club, on s'arrange pour avoir une unité de production, on produit les produits, les plantes que l'on veut voir, ouais. On veut consommer, avec les méthodes qu'on veut voir appliquer.
Ouais, biologique.
Et donc il y a un contrôle, on va dire, démocratique. Et après, en fonction de ce que ça nous coûte, on met au pot. Et si ça nous rapporte, si ça nous coûte rien, on a.
D'accord. Voilà. Et donc là, on sortirait de cette partie illégale et on verrait justement une partie de production légale. Moi, j'ai vu les statistiques il n'y a pas si longtemps du Canada, par exemple,
oui.
Qui était en 2018. Je crois qu'ils ont fait le virage en 2018 au Canada.
Au Canada, il y a 8 modèles différents. Il y a 8 provinces qui ont adapté le modèle fédéral qui était proposé, mais certaines provinces y dérogent. Donc, c'est pas tout à fait un modèle uniforme, et c'est ça qui est intéressant parce que ça fait 8 expérimentations et ça permet de mieux comparer.
C'est intéressant ce que tu dis, mais moi, je regardais surtout les statistiques au niveau des consommations illégales et des consommations légales. Et en fait, on voit qu'il y a eu un changement complet des consommateurs qui étaient dans un marché illégal, donc avec tous les problèmes que ça a créé derrière, plus, et qui sont passés justement dans une consommation légale de produits. Et donc là, on est à un schisme où on est à un peu plus de 70% des personnes maintenant qui sont rentrées dans le chemin légal. Donc ça veut dire que c'est des taxes qui sont données, c'est des impôts, c'est des métiers, c'est des jobs, c'est encadré sur la qualité, etc., etc.
C'est des cotisations salariales, et tu fais bien d'insister là-dessus, parce qu'en fait, Moi, depuis tout à l'heure, je te parle de santé publique, je te parle de sécurité ou de sentiment d'insécurité qui est nourri par le trafic. Mais vraiment, ce qui va faire évoluer, on va dire, l'État et d'une manière générale les décideurs politiques, c'est cette question économique. Parce qu'en effet, aujourd'hui, si on regarde le marché licite, c'est à peu près 4 milliards d'euros. Donc, c'est 4 milliards d'euros qui vont directement dans les poches du crime organisé. D'accord, on dit qu'on veut lutter contre les terroristes. Dans l'immédiat, pour moi, de mon point de vue, tant qu'on maintient ce système de prohibition, on fait une subvention au terrorisme et aux activités criminelles.
Donc, clairement.
Voilà. Donc, ouais. Une fois qu'on aura légalisé et changé la loi pour permettre aux acteurs d'exister et légalement et d'être reconnus et d'être non plus un dealer mais un commerçant, non plus un chouf mais un courtier, tu vois. Quand on aura changé le truc, ben oui, en effet, l'État va pouvoir tirer sa dîme sur ces 4 milliards, voire peut-être 5 milliards, au travers des cotisations sociales qu'on va payer pour les salariés qu'on a en emploi, au travers des taxes sur la vente des produits au détail, au travers de la diminution de certains budgets qu'on consacre à lutter contre le trafic et qui correspond un peu à essayer de vider l'océan à la petite cuillère. Donc voilà, une fois qu'on aura fait ce choix économique, je pense qu'on arrivera sans doute à trouver tout un tas de valeurs à la légalisation. Mais dans l'immédiat, on reste dans une espèce d'univers bloqué, en tout cas en France, comme si ça ne pouvait pas exister, comme s'il y avait des intérêts supérieurs qui nous empêchaient d'y aller.
Et cet argent, on peut l'investir justement dans l'éducation, on peut l'investir dans l'information,
la prévention,
on peut créer un cercle vertueux
qui irait
dans ce sens.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Colorado. La petite anecdote, c'est que là-bas, non seulement ça a servi à améliorer la situation dans les écoles, dans les hôpitaux, mais à un moment, ils avaient tellement perçu de taxes qu'ils ont remboursé certains contribuables qui, selon eux, avaient trop payé d'impôts. Voilà. Et ils ont reçu un chèque. Donc, comme quoi, ça peut avoir un effet très vertueux au niveau économique.
Fabuleux.
Je sais pas si on a beaucoup de temps, mais je voudrais quand même juste qu'on aborde quand même la Cana Parade parce que c'est l'événement qui va arriver.
J'allais te lancer dessus. C'est la dernière partie de cette interview. Justement, t'as la Cana Parade qui va arriver donc le 4 juin.
C'est ça, le 4
donc,
juin.
Donc, parle-nous-en un petit peu de cette manifestation et tu pourras aussi un petit peu nous parler du 18 juin. Voilà, profites-en. On parle de tes deux événements-là.
Je le dis. Il faut que le peuple de l'herbe se mobilise. Là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre avec les élections législatives. Et donc, le 4 juin, c'est important que le peuple de l'herbe, tous les gens qui se sentent de près ou de loin concernés par cette politique liée au cannabis et qui l'ait subi de manière négative en subissant un contrôle policier ou qui aujourd'hui voudraient pouvoir développer leur business dans le monde du chanvre, toutes ces personnes-là qui sont sensibles à l'utilisation du cannabis comme une ressource écologique qui peut avoir tout un tas d'intérêts, ne serait-ce que par rapport aux enjeux climatiques, tous ces gens-là qui estiment qu'il faut arrêter de violer les libertés individuelles et qu'il faut aller vers une politique plus pragmatique et basée sur des arguments scientifiques, il faut tous qu'on se retrouve dans la rue. Donc le 4 juin, c'est la Cana Parade. Anciennement, on l'appelait la marche mondiale pour la légalisation du cannabis, mais comme tout le monde l'appelait la marche ou la marche mondiale, on oubliait de dire cannabis. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait Cana Parade. Et Cana Parade, c'est pour montrer que dans une ambiance festive, on peut militer et on a des choses à dire et on a des choses à montrer. Donc, le 4 juin, je vous invite à 14h sur la place de la République. On ira à direction Bastille et on finira la manifestation sur la place de la Bastille entre 16h et 19h. Dans la foulée, il y a l'appel du 18 juin. C'est la veille du second tour de l'élection législative. C'est une date qui a une symbolique assez forte parce qu'on parle de l'appel du 18 juin par rapport à l'appel du général de Gaulle, résistance anti-nazie. Mais nous aussi, on a notre forme de résistance à un ordre quelque part autoritaire et complètement désuet ou en tout cas qui paraît complètement obsolète. Et donc, depuis 1976, il y a un certain nombre d'intellectuels français qui avaient lancé dans le journal Libération l'appel du 18 juin. À l'époque, il y avait Bernard Kouchner, des tas de sommités comme ça, intellectuels François Châtelet, etc. Et bon, beaucoup ont disparu. Edgar Morin était un des signataires de l'appel du 18 juin. Et donc cet appel, il a été relancé par le cirque en 1993 et chaque année, on se rassemble à partir de 18h pour, un peu comme pour le 420, célébrer ça dans un moment de désobéissance puisque on s'affiche avec un joint allumé. Et c'était le principe de 1976, désobéir la loi et montrer qu'on existe. Et la loi n'a pas évolué en France, si ce n'est qu'elle s'est renforcée dans une version plus coercitive. Mais donc l'appel du 18 juin reste toujours symboliquement l'appel pour ceux qui veulent la légalisation du cannabis et en tout cas veulent la dépénalisation de l'usage des drogues. Et alors après je finis sur ce mois de juin militant, mais là c'est au niveau international. Le 26 juin, c'est la journée internationale déclarée par l'ONU contre les drogues et le crime organisé. Et il y a tout un tas de réseaux internationaux qui depuis 10 ans se mobilisent pour essayer de légèrement faire évoluer ce message des Nations Unies et appellent à une manifestation internationale qui s'appelle Support Don't Punish, c'est-à-dire aidons, soutenons plutôt que de punir. Et donc cette manifestation, le 26 juin, bon là cette année ça tombera un dimanche, mais elle réunit tout un tas d'associations dans le monde avec des gens qui portent un panneau pour stipuler qu'ils préféraient que les lois soient plus et plus une approche de santé publique qu'une approche sécuritaire ou policière. Et donc voilà, le mois de juin va être un mois de mobilisation. En mai, fais ce qui te plaît. En juin, fais ce qui te fait du bien.
Mais écoute, on va conclure sur cette phrase parce qu'elle est vraiment super. Farid, c'était
merci
excellent.
Merci Mathias.
Excellent de discuter avec toi. Tu sais, sur Parlons Cana, nous, on donne la parole à tout le monde, tu le sais. L'objectif, c'est effectivement de transmettre des visions de différentes personnes dans le marché, des associations, des avocats, des producteurs, des militants comme toi.
Il me semble que tu as reçu déjà Normal France aussi,
oui, oui,
l'association en France qui mobilise tous les acteurs de la société civile.
Plusieurs associations, des producteurs, pas mal de monde, des militants aussi dedans. Charles Mexmin, je ne sais pas si tu as vu aussi,
ouais.
Qui est assez militant aussi dans le même combat que toi. Et donc, je redonne la parole à tout le monde parce que l'objectif, effectivement, c'est pouvoir se construire une façon de réfléchir sur comment moi je me positionne par rapport à cette plante, par rapport à ce marché. Et donc la meilleure façon de se positionner, c'est d'avoir une multitude de visions différentes qui permet en fait de pouvoir choisir son chemin en toute clairvoyance. Et c'est
et
ce que tu as fait aujourd'hui.
Je vais le présenter sous un jour véridique. Et là, je pense que tu y contribues largement et je te remercie, Mathias.
Écoute,
vive Parlons Cana.
Merci beaucoup. En tout cas, Farid, merci de ce bon moment qu'on a passé ensemble.
Merci à toi. À très bientôt.
À très bientôt.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.